Voilà, retour ici dans les studios de Radio de la Paix pour parler des compétitions africaines avec notre Gaïandais du COK, Jean-Baptiste Kouadio. Bonsoir.
Bonsoir César, bonsoir également à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Alors, les représentants ivoiriens sur la scène africaine sont désormais fixés sur leurs adversaires pour le premier tour préliminaire des compétitions interclubs. Eh bien, les quatre clubs ivoiriens en lice ont eu des tirages cléments. Alors, ils devront tout mettre en œuvre pour passer cette étape. Et puis, en Ligue des Champions, l'UFC San Pedro, champion de Côte d'Ivoire, croisera le fer avec Borangers de la Sierra Leone. Alors, Jean-Baptiste, est-ce que la mission s'annonce difficile, oui ou non, pour cette formation du COEK?
Normalement, ce n'est pas une mission difficile. Voilà, ce n'est pas une mission difficile puisque le FC San Pedro a deux reprises, n'était pas loin du titre. Et je crois que pour la troisième fois, ça marche. Je pense que cette équipe a assez d'expérience pour pouvoir affronter une compétition africaine. Donc, pour moi, ça ne devait pas être une mission difficile, surtout que c'est des tours préliminaires. Maintenant, bon, on attend l'intersaison. S'il n'y a pas assez de départs, parce que c'est un peu ça qu'on reproche au FC San Pedro, s'il y a beaucoup de départs, donc ça va être une mission difficile.
Donc ça dépendra.
Ça dépendra. Il va falloir que le FC San Pedro conserve son ossature, même si ce n'est pas à 100%, mais au moins 80% de son ossature. Vous savez, quand vous gagnez un titre, vous avez une ossature, vous avez une équipe, comme on le dit, une équipe type. Alors quand l'équipe type est un peu dérangée, certains éléments clés de cette équipe s'en vont, ça devient difficile. C'est comme si l'équipe était en train d'être reprise. Donc c'est pour ça que je dis que ça pourrait être difficile si jamais il y a beaucoup de départs au niveau de cette équipe du FC San Pedro. Donc, normalement, on devrait pouvoir passer le cap de la Sierra Leone.
Alors, cette mission, n'est-ce pas, du FC San Pedro, selon vous, pourrait s'annoncer difficile. Hein, les pétitions auront à cœur de frapper un grand coup et de se qualifier pour le prochain tour. Signalons, Jean-Baptiste Kouadio, que les Sierra Leonais s'apprêtaient à faire une troisième apparition dans l'histoire de la compétition. Et puis, en cas de succès, les jeunes du FC San Pedro seront face au vainqueur de l'opposition du deuxième. Deuxième opposition du championnat, n'est-ce pas, de Libye Al Hilal.
Alors, je l'avais dit une fois, hein, une équipe ivoirienne aujourd'hui ne devait pas avoir peur d'une équipe africaine quelconque. Voilà, ça c'est mon avis, parce que je pense qu'on a quand même une certaine maturité au niveau du football. Donc, le FC San Pedro, je l'ai dit, doit aller avec la confiance et surtout se préparer. Le problème qu'on a ici, c'est que très souvent, il y a des matchs qu'on ne prépare pas. Je demande de le dire, mais on ne prépare pas trop parce que, bon, on continue ceci, on continue cela, et après on est un peu surpris. On a vu le cas cette année avec la SEC Mimosa. Bon, la SEC a misé sur un certain nombre de matchs, et puis bon, après le championnat, ça a été laborieux pour la SEC. Donc pour moi, il faut se préparer, on va en compétition africaine, on sait déjà avec qui et contre qui jouer. Donc quand c'est comme ça, on se prépare. Il faut que les Ivoiriens apprennent à se préparer.
Alors, Jean-Baptiste Kouadio, on va écouter Maxime Guamene. Vous le connaissez, je le suppose. Hein. Il est dans votre poche. Il est l'entraîneur, n'est-ce pas, du FC San Pedro. Comment prépare-t-il, n'est-ce pas, cette échéance africaine? Nous l'écoutons.
Ben, c'est un adversaire que je ne connais pas. J'ai envie de dire inconnu. Maintenant, il se présente à nous. Ça ne va être pas facile. Les anglophones, généralement, sont très difficiles à jouer. Encore plus parce que le match aller sera chez eux à domicile. Ça ne va pas du tout facile pour nous. Ce sera un match très difficile, ça, il faut le reconnaître. Avant de savoir quelles sont ses capacités réellement pour travailler par rapport à cela. Donc, on s'attendra à un match très difficile à disputer. Mais, nous allons mettre les bouchées doubles afin de préserver nos chances au match retour chez nous. Et nous sommes FC San Pedro, on ne peut pas être FC San Pedro et puis faire ce match à Abidjan. Quand en plus on sait qu'il y a un beau stade qui a été réalisé là-bas dans la ville de San Pedro. Nos matchs de Ligue 1 se joueront à San Pedro, comme nous l'avons fait sur les derniers matchs de Ligue 1. Il n'est pas question qu'on joue les matchs de Ligue 1 à San Pedro et qu'on joue les matchs de Coupe d'Afrique à l'extérieur. Ben, c'est à nous d'amener notre public avec nous en Ligue 1 et aussi en Coupe d'Afrique. Donc on a la chance d'avoir un beau stade à San Pedro, le stade Laurent Pocou. L'idéal sera de jouer ces matchs là-bas. C'est ce que j'ai demandé à mes dirigeants et j'espère qu'ils en ont fait de même au niveau de la fédération. Donc pour nous, c'est de jouer donc, au stade Laurent Pocou de San Pedro.
Alors Jean-Baptiste Quadio, San Pedro va bouillonner, vous allez être vraiment comblé là-bas, Jean-Baptiste Quadio. Et en Ligue 1 de football de Côte d'Ivoire également, en Coupe africaine, San Pedro, sinon cette formation du FC San Pedro, devra pouvoir absolument jouer sur ses bases sur les deux compétitions.
Oui, c'est ce qu'on avait souhaité. C'est ce qu'on avait souhaité, ça serait fait. Vous savez que Maxime Gomine, comme Rico Gervais, est en train d'écrire une nouvelle page de la vie de San Pedro. Après Toto Nobile, quand Rico Gervais a repris l'autre équipe, on a vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, c'est lui qui reprend l'équipe après l'épopée des coachs tunisiens. Donc moi, je pense que là, il a une opportunité. Maintenant que le match va se jouer à San Pedro, des matchs au niveau national vont se jouer à San Pedro, et qu'il sache qu'il y a désormais un slogan ici à San Pedro, rien n'est difficile, rien n'est impossible aux pétrolières. C'est le nouveau slogan ici dans la ville balnéaire de San Pedro. Et ça s'est venu de Mme de Maire qui dit comme ça, il ne faudrait plus que les pétrolières disent c'est difficile. Voilà. On peut comprendre pour dire que ça, ce n'est pas facile, mais rien n'est difficile parce qu'on peut tout obtenir. Et si le FC San Pedro rentre dans ce registre-là, et que le FC San Pedro accepte réellement de jouer ces matchs ici, je pense qu'on va laisser derrière ce qui s'est passé et puis soutenir l'équipe véritablement pour aller jusqu'à finale comme ce fut le cas en 2014.
Mais alors Jean-Baptiste Quadio, vous qui vivez au quotidien là-bas à San Pedro, est-ce que ce public-là peut remplir les gradins du stade Laurent Pokou et en Ligue 1 de football de Côte d'Ivoire et en compétition africaine?
Mais bien sûr, c'est pour cela qu'on veut que l'équipe fasse quoi avec la population. C'est pour cela que nous demandons à ce que lorsque cette équipe doit jouer ici, qu'il y ait une communication véritable au niveau de San Pedro. Tout ça, on l'avait déjà dit, je crois que les dieux nous ont entendus, et je pense que pour cette saison qui va commencer, il va y avoir cette communication réelle, ce corps à corps réel avec la population. Maintenant, la question de savoir si on peut remplir les gradins, moi je pense qu'il y a assez de monde. Vous savez, nous sommes dans une zone footballistique. Il y a Sassandra juste à côté, à moins d'une heure, on est à Sassandra. Donc de Sassandra, on peut venir facilement. Et on est à moins de 150 km de Fresco, on peut venir facilement assister aux différents matchs ici du FC San Pedro, parce que c'est toute la région qui est concernée. Et puis de l'autre côté, on a Soublé, on a Miyagi. C'est aussi facile. Bon, là-bas encore quelques problèmes de route. Mais Verebi est juste à côté, Tabou est à côté. Donc c'est une question de savoir quadriller sur le plan communicationnel les matchs du FC San Pedro. Maintenant, s'ils fonctionnent comme ils ont toujours fonctionné, c'est-à-dire attendre que le FC San Pedro arrive, et puis demander aux gens de venir au stade, ou bien solliciter, j'allais dire, la préfecture pour dire bon, il faut communiquer, il faut envoyer des communiqués. S'ils attendent de fonctionner comme ça, je pense que ça va être difficile. Sinon, pour remplir ce stade, je pense que ce n'est pas la main à voir.
Ben, ce sera avec quel type de joueurs? Est-ce qu'il y a eu des recrutements? Vous qui êtes là-bas à San Pedro, vous avez des informations concernant les nouvelles valeurs qui pourront venir, n'est-ce pas, au sein de cette formation du FC San Pedro pour booster l'équipe, en Coupe africaine surtout?
Justement, c'est là la grande question. Je m'attends là-dessus. Quoi, dimanche, je me suis en train de me dire, mais pourquoi cela? Bon, c'est la question qu'on se pose. C'est une équipe un peu fermée sur le plan communicationnel. Et ça nous pose problème parce que nous aussi, même si on ne nous sollicite pas, on veut faire le travail parce que c'est notre boulot. Notre boulot, c'est de faire donner des informations, tout ça. Mais bon, sur le plan communicationnel, c'est difficile. J'ai même détaché un de mes éléments auprès de cette équipe. Mais bon, le contact est un peu difficile. Donc, on espère que d'ici là, on aura une ouverture. Bon, on aura peut-être la possibilité d'avoir des informations. Sinon, je pose la question à certains confrères de différents. Il y a jusqu'à 5 radios ici à San Pedro. Ils vous diront, on n'en sait rien.
D'accord, là c'est vraiment dommage. Peut-être qu'avec la scène continentale, les dirigeants du FC San Pedro pourront s'ouvrir désormais. Le stade d'Abidjan Dauphin, n'est-ce pas, des oranges et noirs, a eu aussi un tirage assez tout de même favorable. Les stadistes disputeront ce premier tour face aux Sénégalais de Tenguet FC. Et bien pour leur retour en Ligue des Champions, les Yéyés se donneront les moyens pour accéder à la phase de groupe. Eh bien, Jean-Baptiste Quadio, s'ils s'imposent lors de cette double confrontation, ils trouveront sur leur chemin l'UFC Noadibou de la Mauritanie ou bien le Milo FC de la Guinée.
encore le Tchad revient au niveau national et encore le Sénégal se pointe.
Ouais.
Bon, j'ai l'impression que les Sénégalais attendaient encore le Stade d'Abidjan parce qu'il y a eu beaucoup de matchs entre ces deux équipes. Je pense que le Stade, c'est vrai, a une bonne ossature hein, par rapport à ce que nous avons vu au cours de ce championnat qui s'est achevé. Et le Stade a des moyens pour aller prendre sa qualification face, j'allais dire, aux Sénégalais. Bon, le football sénégalais aujourd'hui ne fait plus trop peur comme il y a quelques années, même si l'équipe nationale a glané sur plusieurs compétitions. Mais au niveau des équipes, je pense que le Stade d'Abidjan, encore une fois, si cette équipe se prépare, a la possibilité d'aller vers la Mauritanie. Bon, les Mauritaniens, eux aussi, ils travaillent. Voilà, il ne faut pas que les Ivoiriens pensent que la Mauritanie, c'est la boutique seulement. Là-bas aussi, on joue bien au football. Donc, il va falloir que cette équipe du Stade qui revient se repositionne, allait dire, au niveau de notre football. Parce qu'on attendait le Stade au niveau de la Ligue 1, le Stade est arrivé. L'État aujourd'hui arrive en seconde position. C'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir prouver. Depuis 66, les stadistes rêvent. Voilà, depuis 66, les stadistes rêvent, même s'il y a eu quelques velléités dans les années 80. Mais après ça, on n'entend plus parler du Stade. Donc, je crois que c'est un bon retour. Et ce retour-là doit se confirmer au niveau africain.
Alors, il va falloir se réveiller parce que c'est quand on dort qu'on rêve. Hein. Nos amis les stadistes devaient pouvoir se réveiller, comme l'a dit Jean-Baptiste Kouadio. Alors en Coupe de la Confédération africaine de football, le RC. RCA Racing Club d'Abidjan à Yopougon affrontera l'Union Touargaspor UTS, une équipe qui fera ses premiers pas sur la scène continentale africaine, quatrième du dernier championnat marocain. Les unionistes ont profité du doublé du Raja Casablanca et bien à l'aller. Les Racing Men se déplaceront avant d'accueillir les jaunes et noirs une semaine plus tard à Abidjan. Alors Jean-Baptiste, les tableaux, ok d'accord, les tableaux pour le Racing Club d'Abidjan, comment est-ce que vous les voyez? Match aller à l'extérieur, le retour ici à Abidjan.
Sans condition, c'est pour le Racing. Mm-hmm. Sans condition, c'est pour le Racing. Et c'est pour cela qu'après avoir fait soyer, il faut dire que le Racing se prépare maintenant pour la compétition. Voilà. Il y a eu la fête. Bon, à l'époque, on aime bien la fête. On a fait soyer, on a célébré l'équipe, tout ça, c'est bien beau. Maintenant, il va falloir continuer. L'époque, c'est une grande commune footballistique aussi. Donc, il va falloir se mobiliser. Maintenant, l'équipe elle-même, je pense qu'elle n'est pas à son premier essai. Maintenant, face à celui qui arrive et qui est nouveau, aujourd'hui, en Afrique, on ne peut plus parler de nouveauté. Parce que tout le monde suit le football mondial, tout le monde suit ce qui se passe à l'extérieur. Donc, même quand on est nouveau, quand on arrive, on a la possibilité. Il va falloir que les racines, si vous permettez, se préparent eux aussi. Il faut qu'ils se préparent et qu'ils oublient un peu le point chaud du Yopougon, qu'ils oublient un peu les choses qu'ils ont fait après leur bon comportement et puis voilà, se préparer. On veut des équipes ivoiriennes, pivotantes des équipes ivoiriennes qui planent sur le football africain et je pense qu'on a les arguments. On a les arguments et le Racing a aussi des arguments pour cela.
D'accord, dans trois petites minutes, nous irons, n'est-ce pas, Bamako au Mali avec notre ami Boubacar Diakité qui est sur notre pupitre, mais bien avant, Jean-Baptiste Kouadio, en raison de son classement africain, la SEC Mimosa est dispensée du tour préliminaire. Les Mémos patienteront avant de retrouver l'Afrique et ils joueront le vainqueur de la rencontre AC Kosa Asfan. Et puis, signalons que les phases éliminatoires se dérouleront selon le calendrier suivant. Le premier tour aller aura lieu du 16 au 18 août et puis le match retour du 23 au 25 août 2023. Jean-Baptiste Nekité, surtout pas, nous nous envolons pour le Mali où nous attend Boubacar Diakité. Bonsoir mon cher Bouba.
Bonsoir, bonsoir à Diouf, bonsoir tout le monde.
Alors, Boubacar Diakité, les clubs maliens sont à quelle enseigne avant d'aborder l'équipe nationale?
Bon, je pense que ici, c'est les repos, ici, c'est pour le moment, c'est la période des vaches maigres, ils sont en congé, donc en attendant la reprise, mais...
Je parle des représentants maliens en Coupe CAF et en Ligue des Champions. Est-ce que...
Effectivement, le Djoliba en Ligue des Champions et puis le Stade Malien en Coupe CAF, depuis les tirages, ils sont fixés, donc ici, l'optimisme est de mise au sein des états-majors, respectivement au complexe sportif Ousseini Diaradi Benker, le domaine du stade malien, tout comme les centres sportifs, le complexe sportif Kalonga Keta Dikeke, du côté de RMA Kono, à le domaine du Joliba.
D'accord. Alors, Boubacar Diack, quitter autre sujet abordé. La situation devient de plus en plus tendue autour du football malien de l'équipe nationale en raison des récents problèmes logistiques rencontrés le mois dernier pour se rendre en Afrique du Sud afin d'affronter Madagascar dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et bien, les joueurs internationaux maliens avaient publié un communiqué menaçant de se retirer si la situation ne s'améliorait pas. Qu'en est-il réellement, Boubacar Diakité?
Ok, Yao, donc comme tu l'as dit, aujourd'hui entre la Fédération malienne de football et puis les joueurs de la sélection A, les Aigles du Mali, rien ne va plus. Comme tu bien, tout le sud de le dire, la goutte d'eau vase qui a fait déborder les vases, c'est que depuis le récent voyage des Aigles à Johannesburg pour affronter les barrières de Madagascar, le voyage n'était pas du tout bien préparé. Il y a eu des quiproquos, il y a eu des va-et-vient entre l'aéroport international Bamako Senou et le centre sportif d'élite Kavala, le domaine des Aigles. Donc, ce qui n'a pas été du goût des Aigles, et vous connaissez la suite, c'est un petit match nul. Avant, il y a eu la défaite contre les Ghana à domicile. Donc, en réalité, les Aigles, sous le coupole de leur capitaine Amari, avait fait une lettre pour dire que si jamais les conditions ne sont pas améliorées et qu'ils vont plus répondre à la sélection. Et aussitôt, la Fédération malienne de football aussi n'a pas attendu. Vous savez que l'État, c'est vrai que dans le domaine du voyage au Mali, c'est l'État, mais bon, comme c'est venu comme ça, la Fédération s'est sentie un peu vexée. Et dans la foulée, la Fédération aussi avait convoqué pour une explication le capitaine Amari. C'est dernier n'a pas répondu à la convocation. Bon, selon les informations, il ne se trouvait pas à Bamako en ce moment, même s'il était en vacances. Donc, aussitôt, la fédération aussi a fait un communiqué pour suspendre les capitaines, a pris une décision au sein d'une réunion collégiale et la Fédération malienne de football a suspendu le capitaine Amari. Aussitôt, seulement le vendredi, dans un communiqué via les réseaux sociaux, il faut le signaler, certains joueurs, notamment des cadres de l'équipe nationale aussi, ont réagi par rapport à ces communiqués et ils ont dit que la FEMAFOOT, je vais lire exactement comme ils avaient écrit. Bon, donc, suite à la décision numéro 051 de la Fédération malienne de football, portant sur la suspension à titre conservatoire du capitaine de l'équipe nationale, Marie, le collectif des joueurs de l'équipe nationale notifiant que toutes les décisions précédentes ont été prises par l'ensemble des joueurs et non par la personne de Amari. Et au vu de cette clarification, les joueurs, et la majeure partie, il y a les gros îlots, ont porté la connaissance de la Fédération malienne qu'ils ne vont plus répondre à la convocation et il met un retrait à la sélection nationale jusqu'à la levée de la suspension du capitaine Amari Traoré. Donc il y a beaucoup de joueurs qui se sont signalés dans ces communiqués. Il y a les capitaines même en personne, il y a Amadou Aïdara, il y a Djadé Samasekou, pour ne citer que ceci. Donc, comme tu l'as dit, pour rappel, Amari avait été convoqué pour répondre à une convocation. Il n'a pas répondu. Donc, la fédération aussi, dans la foulée, a pris la décision. Et voilà la réaction des joueurs. Donc, c'est une situation, une patate chaude dont nous assistons et que les publics sportifs et puis les autorités maliennes, tout le monde suit attentivement. Comme d'autres, on aimerait le dire, c'est une affaire à suivre, franchement.
Affaire à suivre. Alors, Jean-Baptiste Quadio, à San Pedro, les joueurs menacent, les joueurs maliens menacent de boycotter les éliminatoires de la CAN 2025. Est-ce une bonne chose, Jean-Baptiste, avant de repartir au Mali?
Non, pas du tout. C'est pas une bonne chose. Mais c'est quand même surprenant qu'on soit encore à ce stade de divergence entre, la fédération, le ministère, la fédération. Bon, c'est des choses qui devait être derrière nous. c'est pas fréquent en Europe. Pourquoi est-ce que chez nous, c'est toujours comme ça? C'est la question. Quand on dit aujourd'hui que le Mali, pour faire tel voyage, c'est difficile, ça ne devrait pas pouvoir être difficile. C'est quand même un grand pays de football, le Mali. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Après le poupée des Camerounais, c'est maintenant le tour du Mali. Après, ça sera le tour de qui? Non, attends. Il faudrait que tu t'arrêtes. Maintenant que les joueurs soutiennent leur capitaine, pour moi, c'est normal. Ils soutiennent leur capitaine, c'est normal. Mais bon, même si par moment, je ne suis pas trop pour ces gens de réaction, mais on ne peut pas abandonner le capitaine dans cette lutte. Voilà. Parce que tu as réclamé ceci, alors on prend ta décision, bien, tu ne te suspends. C'est quoi ça? Pour parler comme Ivoirien, c'est quoi ça? Il faut que ça t'arrête. Voilà.
D'accord. Alors, Boubacar Diakité, en attendant un éventuel apaisement de la situation, eh bien, les supporters maliens peuvent craindre. Est-ce qu'ils peuvent craindre le pire? Parce que si rien n'évolue, le Mali pourrait se présenter à ces deux matchs avec une équipe B. C'est possible, non?
Oui, c'est une alternative et c'est déjà envisageable pour d'un camp comme de l'autre. Je vous avoue que c'est une décision, une situation qui divise. Il divise dans la mesure où, que ce soit le public sportif, les journalistes, les fans, même les autorités, même sans faire de déclaration, c'est une décision qui divise. Et déjà, des voix s'élèvent pour dire de reconduire ipso facto l'équipe nationale U20, U23 qui est déjà à Paris pour les Jeux Olympiques.
Alors,
comme je vous ai dit, c'est une affaire à suivre.
Une affaire à suivre. À noter, Boubacar Diakité, que la sélection des U23 qui participera aux Jeux Olympiques de Paris 2024 à partir du 24 juillet n'est a priori pas concernée par ce boycott. C'est cela?
Non, pas du tout. Ils ne sont pas concernés et ils sont loin d'être concernés dans la mesure où aucun élément de cet effectif ne fait partie aujourd'hui de l'équipe A des Aix. Donc, et aucun joueur aussi n'est nullement concerné par rapport à cette réaction suite à la suspension du capitaine Amari.
Alors, Boubacar Diakité, dans ce bras de fer-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de part et d'autre?
Bon, comme je vous ai dit, le Mali étant un pays de culture, de dialogue, je crois que les autorités sont en train de suivre. Les autorités, même sans réagir, sont en train de suivre. Et aussi, il y a beaucoup de réactions à travers les réseaux sociaux, les plateformes des journalistes sont animées. Comme je vous ai dit, c'est une décision qui divise. Les gens n'ont pas les mêmes avis. Donc, je crois que les autorités sont en train de suivre. Et je pense que d'ici que ça aille loin, comme je vous ai dit, rien ne va plus. Les autorités vont réagir et puis chacun mettra un peu d'eau dans son verre et puis on continuera avec le football malien.
Alors Jean-Baptiste Quadio à San Pedro, à l'Ivoirienne, comment dénouer ce nœud gordien là, Jean-Baptiste?
Asseyons-nous, discutons. C'est-à-dire que voilà, asseyons-nous, discutons. Voilà, les joueurs sont mécontents. On a connu des situations comme ça ici, les joueurs sont mécontents. Bon, il y a eu telle chose, on s'assoit et puis bon, on essaie de se parler. Il faut que les gens apprennent à se parler. Voilà. C'est vrai que comme l'autre l'a dit, Boubacar l'a dit, sur les réseaux sociaux, chacun y va de son commentaire. Il y a ceci, il y a cela. Bon, ça c'est ce qu'on peut dire, ça c'est ce que les autres peuvent dire. Mais quand on est responsable d'une association comme la Fédération Malienne de Football, bon, on cherche à rencontrer les jeunes gens, comme on les appelle, et puis bon, vous discutez. Maintenant, par rapport aux sanctions, si vous estimez que la sanction mérite d'être maintenue, voilà, dans ce cas-là, je pense qu'à l'Ivoirienne, ou bien à la manière des pétrociens, on se retrouve là-bas quelque part et puis, bon, ici, il y a beaucoup de grains, hein. On se retrouve au grain et puis on discute. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi vous avez fait cela. Et puis bon, juste pour les contenter un peu, parce que bon, après l'échec de la Côte d'Ivoire, je comprends un peu ce que les joueurs disent. Ça a été une grande déception. Maintenant que la sanction vient de frapper le capitaine, bon, il y a eu cette réaction. C'est un mauvais vent qui est passé. C'est comme ça que les Ivoiriens règlent leurs problèmes. C'est un mauvais vent qui est passé. On s'assoit et on se parle.
Alors, Boubacar Diakité, avant de vous lâcher, est-ce que ce moment-là, important, un moment, est-ce qu'il est mal choisi? Parce qu'il y a les éliminatoires de la CAN 2025.
Je vous ai dit, le moment n'est pas bien choisi. Ah ben voilà. Le contexte ne s'y prête pas également. Je crois même que c'est l'avis des autorités, parce que sans citer des noms, j'ai approché des plus hautes autorités, certaines autorités par rapport à ces problèmes. Et je vais, pour que vous puissiez comprendre, je vous ai dit que c'est un problème qui est un peu mal déplacé. Vous savez que tout est parti suite au limogeage du sélectionneur, Eric Schell. Donc, vous savez, ces problèmes-là même est déplacé et chacun dans son entendement va avec ce qu'il pense. Je vais vous dire une chose pour que vous puissiez mieux cerner les
allez-y,
problèmes.
Allez-y, Bouba.
Pour la fédération, parce que les jeunes n'ont pas... Pour la fédération, j'estime, je n'ai pas dit que c'est vrai, selon la fédération, selon une version que j'ai eu des membres du bureau fédéral, les joueurs sont en train de boycotter, les joueurs sont en train de prendre une certaine décision parce que seulement les joueurs étaient comme... Cette équipe était comme un grain. Ce n'était pas une sélection, c'était comme un grain. Donc maintenant, comme on a coupé la tête, on a fait partie au niveau des sélectionneurs, donc les joueurs sont en train de... C'est une façon de soutenir les sélectionneurs.
Ouais.
C'est comme ça l'entendement du côté de la fédération. Et même quand le capitaine n'a pas répondu à l'appel, alors qu'il s'est bon, on a dit qu'il s'est trouvé à Bamako, je ne suis pas sûr, je ne peux rien confirmer parce que j'ai tenté de l'avoir, je ne l'ai pas eu. Et il y a eu un mal donné, les problèmes se sont déplacés. Et je crois que, comme je vous ai dit, les autorités observent, le Mali c'est un pays de culture, de dialogue. Une sélection ne va pas se déraciner comme ça. On va pas les laisser faire, ni la fédération, même ni les aides. Je crois qu'il y a les bonnes voies, il y a beaucoup de solutions ici. Et puis, je crois qu'au moment opportun, on sera tapé la table pour la ramener.
C'est ça?
Oui.
La raison, quoi.
Moi, je pense qu'il a fini par sortir le gros problème. Le gros problème, c'est que l'ancienne l'équipe était vraiment attaché à son ancien coach. Voilà, donc c'est clair là. Donc si c'est le cas, c'est aussi un manière de coach. Alors qui se mettent là, qui l'interviennent, qui demandent aux jeunes de se calmer. Voilà, c'est tout. Parce que nous sommes à l'orée des éliminatoires de la CAN. Voilà, je ne voudrais pas que cette situation puisse se freiner. C'est vrai que c'est facile de dire, bon, on va remplacer l'équipe par l'équipe des U20, tout ça, mais ce n'est pas la même chose. Hein. Je suis désolé. Voilà. C'est des Maliens, donc il faut qu'ils s'entendent. Il a dit que le Mali est un pays de dialogue. Et si le Mali est un pays de dialogue, et puis parce que les grains, comme il a dit aussi, ça part du Mali, pour que ça puisse nous impacter ici. Donc ils se mettent dans les grains, puis qu'ils discutent. Voilà, il faut qu'ils se parlent. Parce que ne pas avoir le Mali à la prochaine CAN, ce n'est pas du tout bon. Parce que nous, on veut les rencontrer encore puis les battre, comme on l'a fait ici.
Boubacar Diakité, il a lancé une pierre dans votre jardin, Jean-Baptiste, depuis San Pedro.
Il va nous trouver sur le chemin. Il va nous trouver.
Merci Bouba et bonne journée à Bamako. Merci Boubacar Diakité depuis Bamako. Alors Yves Béhi, il faut certainement le couper pour nous positionner notre Ngassa Savio, notre Bassa de Douala, avec qui on va évoquer effectivement trois petits pans de l'actualité sportive là-bas au pays de Paul Biya, mais bien attendu, mais bien avant, voudrais-je dire Jean-Baptiste Kouadio, cette équipe malienne-là, avec ses vedettes et autres stars, ne peut ne pas être à la CAN, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui sera ce manquement au cas où ce Mali-là n'est pas présent à la CAN 2020 5 au Maroc, qu'est-ce qui va manquer?
Il va manquer cette... J'aime bien voir les Maliens jouer. J'aime bien voir les Maliens jouer. Vous sentez que les jeunes Maliens aiment bien titiller le ballon. Ça fait plaisir quand vous allez au stade et que vous voyez des gens manier le ballon et puis maîtriser un certain nombre d'éléments. Donc, c'est une équipe, il nous faut. C'est comme aujourd'hui une CAN sans le Ghana, une CAN sans le Cameroun. Bon, ce n'est pas acceptable. Et surtout qu'il y a ce... Donc, ce derby entre Maliens et Ivoiriens, je sais que les Maliens sont en train de bouillir depuis quelques temps pour que la revanche soit prise. Donc, il serait très intéressant que ce remake-là se passe ici. Voilà, c'est-à-dire qu'au Maroc, on aimerait bien voir encore les Ivoiriens et les Maliens, au niveau des supporters surtout, s'opposer parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, c'était tellement joli de voir un peu, de vivre un peu des choses qui nous ont amené à nous concentrer véritablement pour ce match. Donc, pour moi, il faut que le Mali soit là. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a trois pays qui ne vont plus manquer à une CAN, le Ghana, le Mali et puis la Côte d'Ivoire. Maintenant, à un degré moins, le Burkina Faso, je m'excuse pour les Burkinabés, mais bon, c'est le nouveau venu dans le trio. Voilà. Donc, parce que le Mali, c'était depuis les années 70, le Burkina, c'est depuis quoi, 90 qu'ils ont commencé à se positionner. Bon, le Ghana, là, c'est connu. la Côte d'Ivoire encore, c'est connu. Donc, pour l'instant, le trio doit rester, le trio doit demeurer, parce qu'on doit se retrouver là-bas au Maroc. Et puis encore, les battre, comme je l'ai dit, pour que, bon, on confirme notre place au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
Il y a une équipe d'Afrique centrale qui ne doit pas manquer à une compétition de Cannes, c'est le Cameroun. Le Cameroun où se trouve Douala, l'une des principales villes, la ville économique, la ville portuaire, où il y a notre bien-aimé Ngassa Savio qui est sur notre pupitre. Bonsoir Ngassa.
Bonsoir César, bonsoir Abidjan, bonsoir à tout le panel et puis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui.
Est-ce qu'il pleut à Douala en ce moment?
En matinée, beaucoup de pluie. En après-midi, on a eu droit quand même au soleil. Là, à présent, il fait frais. Et qu'on est au crépuscule, ben, il fait frais.
D'accord, vous avez une voix fraîche. Depuis de voilà. Ngassa Savio, Ngassa. Alors, cette semaine au Cameroun, on va parler du handball. Le secrétaire général adjoint de la fédération condamné à 2 ans de prison avec sursis et 6 ans d'interdiction sur le sol suisse pour immigration. Immigration clandestine, de quoi s'agit-il exactement?
Alors, il faut dire que les faits déjà remontent à janvier, hein. Les faits remontent à janvier, lorsque le secrétaire général adjoint de la fédération camerounaise de handball, donc Serge Ndam, se sont présentés. D'abord, il faut dire que ce sont l'équipe nationale, ou la soi-disant équipe nationale qui s'est présentée en Suisse, comme quoi elle venait préparer justement la CAN de handball. Ils étaient une équipe de 19 personnes. Et seulement 9 ont paru un petit peu, étaient un peu suspects à l'endroit, bien sûr, des services suisses. Donc, du coup, il y a eu beaucoup d'interrogations. Ils ont passé l'interview. 2 des 19 Camerounais, bien sûr, interviewés, sont passés aux aveux complets en révélant le stratagème, en accusant justement le secrétaire adjoint, le secrétaire général de la fédération, qui lui se trouvait au Cameroun au moment où les faits se passaient, et la CAN en elle-même était déjà passée. Donc, du coup, voilà comment les gars ont été piégés et appréhendés. Une fois venus donc, du côté de la Suisse, on a fait venir, bien sûr, le secrétaire adjoint qui est arrivé, et justement, une fois là, devant les juridictions suisses, voilà, les deux Camerounais, comme je vous le disais, ont dévoilé comment ça s'est passé, et voilà comment Serge Ndam se voit interdit donc de suspendu, hein, du moins interdit de 6 ans de franchir le territoire suisse et condamné à 2 ans de prison avec sursis pour immigration clandestine. Vous savez, c'est souvent des stratagèmes parfois, c'est des méthodes qu'on entend qui sont souvent utilisées pour faire cela. C'est les méthodes qui sont très souvent utilisées. Il faut dire que les passeurs se servent souvent de ce genre de méthodes pour faire justement faire voyager les gens ou leurs familles en Europe. Donc, malheureusement, voilà, lui, il a été coffré, il a été pris. Et puis, les commissions suisses ont justement décidé de ne pas faire. Je rappelle que lui, en plus d'être secrétaire général adjoint à la Fédération camerounaise de handball, il est également employé au ministère des Sports. Donc, je crois qu'au niveau du Cameroun, forcément, il y aura aussi des décisions à prendre contre sa personne dans les prochains jours. C'est véritablement une affaire à suivre, surtout que la Suisse a déjà rendu son verdict.
Alors, Ngassa Savio, on va parler effectivement du football camerounais. Le champion de ce pays, Victoria United, fixé sur son adversaire du premier tour de la Ligue africaine des champions. Il s'agit de qui?
Exactement, il s'agit du Saint-Martin 1996. Ce sera bien sûr l'adversaire du club Victoria United, champion du Cameroun pour le cours de cette saison. Il faut dire que c'est un club du Ghana. Gilles, ce soir, c'est le plateau pour nous parler du Saint-Martin 1996. Alors, vous souvenez, l'équipe déjà Victoria United du président Valentin Poukouen.
Ngassa Savio?
Oui.
On ne vous entend pas très bien, hein, comme si vous étiez en train de parler dans une gourde. Approchez le portable de la bouche, allez-y.
Ok, vous me suivez, c'est bon maintenant?
Oui, ça va mieux.
Alors, je disais que l'équipe de Saint-Martin 1996, c'est l'équipe du Ghana. Et puis l'équipe de Victoria United du président Valentin Cohen se prépare quand même depuis quelques années, lorsque l'on sait que le championnat est arrêté ici, est terminé. Et pour que le championnat reprenne, il faudrait que la Coupe du Cameroun puisse se jouer. Et on n'en est pas encore là. C'est souvent le problème que l'on a avec les clubs venant du Cameroun et d'Afrique centrale, c'est assez compliqué, du Cameroun en particulier. Tout simplement parce que le championnat tarde à démarrer et puis la Coupe du Cameroun ici, la finale de la Coupe du Cameroun est un agenda qui est donné et dévoilé par la présidence de la République. Donc c'est un peu le problème ici, c'est pour ça qu'on ne peut pas jouer, la saison parfois au Cameroun commence très tard. Donc pour préparer donc cette échéance contre le Saint-Martin 1996 du Ghana, le club est obligé de livrer des matchs amicaux. D'ailleurs, Victoria United a joué un match américain contre les U20 qui eux également se préparent pour la Coupe de l'UNIFAC. Voilà, cette catégorie des U20. Donc, il y a au total, je pense, 4 rencontres que l'équipe de Victoria United disputera, 4 rencontres amicales avant, bien sûr, d'affronter cette équipe parce que le championnat, lui, il tarde à démarrer et comme je vous ai expliqué, il dépend, bien sûr, de la présidence de la République. Mmh. Voilà, mais c'est une équipe quand même qui, au niveau du recrutement, Victoria United depuis a commencé selon les dires de son président, on a commencé à travailler depuis la saison dernière. Il faut dire quand même que c'est l'une des équipes quand même fraîchement arrivée en Ligue 1 pour le compte de la saison dernière. Elle a pu s'attacher des services des professionnels, parce que quand on arrive dans le camp de base de Victoria United, c'est véritablement un groupe professionnel que l'on rencontre d'abord. On a des vidéastes, on a vraiment, on se croirait dans un club européen. Donc, au moins, ils se battent. Cette équipe, alors, elle se bat à préparer du mieux qu'elle peut. Bien sûr, la prochaine Ligue des Champions qui arrive, je vous rappelle que ce sera le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mmh.
Alors, dernier sujet abordé en 2 minutes, hein, Ngassa Saviou. Les arbitres de la région du centre du Cameroun décrètent sifflet mort. Les hommes en noir réclament plusieurs émoluments.
Oui, des évoluments dans la région du centre. Il faut dire que le football est arrêté, sifflet mort, pas de championnat. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que justement, ces championnats régionaux, ou alors les championnats qui sont à l'étape supérieure, à savoir l'élite tout, la Ligue 2 et tout ça là, ça dépend justement de ces championnats. Et lorsque l'on sait que les interpoules, devant livrer les qualifiés, ou alors les équipes qui accéderont en ligue professionnelle et en deuxième division, et quand on sait que cette interpool là commence le 1er août dans la Ligue régionale du centre, il n'y a pas de football, parce que oui, ça fait 3 saisons que les arbitres n'ont pas reçu des émoluments. Mmh. Du coup, ils ont décrété sifflet mort, c'est la tension, et la réunion même, une réunion tenue cette semaine n'a rien produit du tout. Et je rappelle que ce n'est pas seulement la section masculine qui souffre de cet arrêt du football dans cette région dû au non-paiement des émoluments des arbitres. Il y a également la section féminine qui n'arrive pas, bien sûr, à livrer son champion. C'est carrément une embryonnée qu'on vit de ce côté-là. Déjà dans le littoral, ici où je me trouve, c'est-à-dire à Douala, on avait vécu ça. Il y a des arbitres également qui se sont plaints de les mêmes problèmes. Entendu avec la fédération, bon, il y a eu une entente qui a été trouvée. C'est pour ça que depuis quelques temps quand même, les rencontres des régions sont en train de s'achever, du moins pour la région du littoral, on est en train de terminer. Voilà, parce qu'une entente a été trouvée. Mais c'était le même cas, parce que pour avoir eu, bien sûr, le président de la commission des arbitres, justement dans la région du littoral, monsieur Simon Gombelec, lui, il a fait comprendre, hein, en offre que ça faisait aussi près de 3 saisons, qu'eux, ils n'avaient pratiquement rien reçu. On parlait au moins de 28 millions de francs. Et puis, les arbitres en avaient marre. Vous savez qu'à un moment donné, ventre affamé n'a plus d'oreille. Mm-hmm. Donc, on s'est retrouvé dans cette situation. Mais la situation a été réglée. Maintenant, du côté du centre, forcément, cette semaine, on sera fixé. Parce que oui, c'est un contre-la-montre à présent. Et il y a le premier tour, il y a les interpôts qui sont censés commencer, bien sûr, dans le 1er août prochain. Je voudrais terminer ce soir, César, vraiment, hein, avec mon coup de cœur de la semaine et que j'aimerais donner. C'est Binyam Girmay, l'Érythréen qui est autour de France, vous savez, qui a remporté déjà près de 4 étapes dans le Tour de France. Et c'est vrai qu'on en parle très peu, quand même. Mais je tenais vraiment à donner ce coup de cœur au mois de la semaine. Et qui, je le rappelle, est le meilleur sprinter du monde. Et il y a le maillot vert pour le moment dans le Tour de France. Franchement, je crois que c'est une sacrée performance pour un noir africain, quand même. Voilà, on parle.
Voilà, il faut en parler. Moi, c'est un carton vert. Hein. D'accord.
Ah oui.
Merci infiniment, Ngassa Savio, en direct de Douala, cette fameuse ville côtière que nous adorons bien, mais qu'on a fouinée en 2021 quand nous y étions.
Dimanche prochain.
Ngassa Savio. Allez, merci, mon cher Gayandé. Au plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour d'autres faits de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et veillez assurer les différentes manipulations techniques de cette émission de Rien que du sport à la présentation César. Allez, à dimanche prochain.
Rien que du sport. Le sport dans toute sa dimension sur Radio de la Paix. Rien que du sport, ce sont les matchs en direct, les décryptages, les comptes rendus, les commentaires et les analyses de l'actualité sportive ivoirienne, africaine et mondiale. Rien que du sport, chez vous et avec vous, avec tous les correspondants et consultants sportifs, partout où le sport se pratique. Rien que du sport, sur Radio de la Paix, aux commandes César Yao.